franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jones.
Bonjour.
On commence évidemment donc par cette décision américaine, décision de Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat.
Avec cette une du New York Daily News, sans doute la plus explicite, pleine page, la photo de Trump et ce titre. Trump dit au monde, vous pouvez tous crever.
Ah oui, c'est assez clair. Oui.
Une presse américaine très inquiète de l'isolement accru des États-Unis après une telle décision. Le Los Angeles Times écrit qu'avec cette sortie, un président grincheux mène le pays sur le chemin de la catastrophe irréversible. Il analyse cette décision comme un préjudice pour la réputation des États-Unis qui aura également des conséquences néfastes au niveau national et notamment pour les entreprises américaines et leurs employés. Un constat que partage USA Today, l'Amérique d'abord devient de plus en plus l'Amérique seule, regrette le quotidien. Une chaîne, on ne s'en étonnera pas, se démarque, a relevé ce matin le site du Monde, Fox News évidemment, qui qualifie de courageuse et de bonne la décision de Donald Trump. Ainsi, la chaîne télévisée juge qu'il endosse la stature de leader mondial en défiant la gauche, les médias, ses enfants et les leaders mondiaux. En Allemagne, Der Spiegel prédit la fin du monde, un dessin où l'on voit une comète inquiétante à la chevelure blonde fondre sur notre planète bleue. Chez nous, Libération laisse dégouliner du pétrole à sa une, climat, goodbye America. Le Parisien aujourd'hui en France parle de folle décision. Et puis à la une du Télégraphe en Grande-Bretagne, un petit sourire, sourire du dessinateur Matt. Deux ours polaires recroquevillés sur un tout petit bout de banquise qui s'exclame à l'annonce trumpienne « Oh, coffé-fé !» Ce néologisme trumpien, donc pour appuyer le côté complètement incompréhensible d'un tel retrait. Les commentaires sont chez nous unanimement négatifs. « Bras d'honneur à la planète », dit le Parisien. « Trump commet une faute historique et criminelle », écrit son éditorialiste Jean-Marie Montali. Dans les colonnes du même journal, Ségolène Royal dénonce un délit contre l'humanité. Dans les Échos, Jean-Francis Pécresse dénonce ce docteur Folamour de la planète qui joue avec l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Pire, dit-il, avec son climato-négationnisme de pacotille, Donald Trump ment quand il promet de faire d'une Amérique plus sale une Amérique plus grande.
Dans la presse américaine ce matin, Hélène, comment Donald Trump en est arrivé à prendre cette décision?
Le Washington Post raconte précisément l'ardent débat qui s'est tenu dans l'entourage du président pour en arriver donc à cette décision. Les pressions pour qu'il reste dans l'accord de Paris sont venues de toutes parts. Des géants de la Silicon Valley, dont Tim Cook d'Apple ou Elon Musk de Tesla. Des dirigeants européens à Bruxelles, il y a quelques jour de sa fille, Ivanka, qui a même décroché son téléphone pour appeler des patrons qui se sont du coup fendus d'une lettre en mai dans le Wall Street Journal, exhortant le président américain à ne pas choisir le « out », sa fille arguant auprès de lui « mais que le monde va-t-il penser de nous ?» En vain donc. Hier, ceux qui ont gagné, explique le Washington Post, ce sont donc les lobbies du charbon. C'est Steve Bannon, son conseiller spécial ultra-droitier, qui éprouvait, paraît-il, une véritable passion pour cet accord. Passion au sens de fixation, fixation négative. C'est Scott Pruitt, climato-sceptique nommé à l'Agence de protection de l'environnement. C'est Don McGahn, le conseiller juridique à la Maison-Blanche. Les efforts faits pour dissuader Trump de sortir de l'accord ont même parfois eu l'effet inverse. Quand on lui disait que l'ère du charbon touchait à sa fin, Trump entendait carrément le contraire. Sans l'accord de Paris, l'industrie minière américaine pouvait peut-être être sauvée. Même les pressions étrangères ont peut-être été contre-productives, explique-t-il. La fameuse poignée de main entre lui et le président français à Bruxelles, dont Emmanuel Macron s'est gargarisé, aurait irrité Donald Trump. Pas question de se faire dicter sa conduite par un freluquet de 31 ans, son cadet. Hier, il tenait donc sa revanche. « J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas ceux de Paris », a-t-il lâché. Tenir ses promesses coûte que coûte pour satisfaire ses électeurs, au mépris de la réalité économique, souligne ce matin le New York Times, d'une industrie minière qui ne cesse de décliner quand celles des énergies alternatives sont en plein boom et que leurs emplois ont été multipliés par 10 en 10 ans.
Oui, le charbon aux États-Unis, je crois que ça n'est plus que 50 000 emplois environ aujourd'hui. Et on va en reparler tout à l'heure avec Laurence Subianal. Noir, c'est noir, Hélène, il y aurait donc plus d'espoir après la décision américaine?
Ben non, on a entendu évidemment Nicolas Hulot. Et puis Christophe Lausson dans Libération le dit bien ce matin, il y a deux façons de considérer ce retrait. Gifle au visage de l'humanité et cauchemar pour les générations futures ou chance unique de clarification. Comme le Brexit a réinnervé l'Europe, l'Amérique-cit pourrait finalement pousser le monde à rehausser son niveau d'ambition en refusant ce couvre-feu idéologique dicté par l'obscurantisme. D'ailleurs, dès hier soir, on l'a dit, une sorte de résistance écologique s'est organisée. Trump n'est pas l'Amérique, relève Morin Picard dans le Figaro. Trump sortirait de l'accord, pas forcément donc tous les États-Unis. Et puis relevons qu'à distance, le mano à mano entre Macron et le président américain se poursuit. Hier, dans son intervention en anglais, le chef de l'État français avait paraphrasé la devise trumpienne en lançant « Make our planet great again », réplique quasi immédiate sur Twitter dans la nuit de Donald Trump. « Make America great again », en capitale une fois encore.
Et en bref, Hélène, pardon, l'actualité dans la presse ce matin, c'est aussi...
Les réactions au projet de loi autour de la moralisation de la vie publique présentée hier par François Bayrou, le garde des Sceaux. Titre des Échos, Bayrou présente une réforme ambitieuse. Titre de l'Humanité, Bayrou présente une loi minimaliste.
Voilà.
Thomas Pesquet, l'envoyé spécial du syndicat terrien des offices de tourisme, comme le surnomme drôlement Libération pour ses milliers de clichés émouvants de la Terre, ses aurores boréales, ses déserts, ses dunes, mais jamais ses zones de conflit, revient donc sur Terre cet après-midi après 196 jours dans l'espace. Bilan scientifique un petit peu dans la presse ce matin, bilan médiatique surtout. 550 000 abonnés sur Twitter, 337 000 sur Instagram et près d'1,5 million sur Facebook. Au moins grâce à ces photos, les Français seront peut-être un peu moins nuls en géographie, veut croire un scientifique dans le Parisien. Et puis un conseil de lecture pour être un petit peu moins nul, peut-être dans d'autres domaines. La série que Piotr Smolar consacre cette semaine dans le monde aux 50 ans de la guerre des Six Jours, à ses conséquences dans un pays, Israël, plus déchiré que jamais. Comment Israéliens et Palestiniens vivent incroyablement séparés de quelques mètres seulement dans les colonies de Jérusalem-Est. C'est un article daté d'hier. Comment la martyrologie, le culte de ceux qui commettent des attentats ou qui sont tués par les soldats israéliens, est devenu le ciment social des Palestiniens quand le rêve d'un État semble plus éloigné que jamais. Cet article-là est daté du Monde d'aujourd'hui. C'est à lire, c'est passionnant car on comprend mieux ce qui se passe là-bas.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.